Bonjour, alors dans le cadre de ces Astronomades 2015, dont le thème général est le volcanisme, je vais vous parler en une heure du volcanisme un peu géant, ce qu'on appelle le volcanisme paroxysmal, et qu'est-ce que ce volcanisme géant a pu faire sur la biosphère, ses grandes interactions avec la biosphère, en particulier, est-ce qu'il a eu un rôle dans les grandes extinctions? Alors, nous savons tous, parce qu'on l'a appris à l'école, ce que c'est que les éruptions volcaniques aériennes. Je vais parler surtout du volcanisme aérien, je ne parlerai pas du volcanisme sous-marin. Alors ces éruptions banales, il y en a eu dans le Massif central, donc en Ardèche où nous sommes, et il y en a de tout type, plusieurs fois par an ou par siècle, quelque part dans le monde. Alors on peut distinguer quelques grands types d'éruptions, par exemple les cônes de scorie, le petit volcan, son petit cratère, ses petites projections, c'est joli. Ça peut faire des grandes ou des petites coulées de lave, comme vous avez sur la deuxième diapositive. Ça peut faire des dômes volcaniques, il y en a beaucoup en Ardèche, on y reviendra. Et ça peut faire ce qu'on appelle des nuées ardentes, ou plus un terme plus correct, des coulées pyroclastites. Alors on peut détailler tout ça. Le premier type d'éruption, c'est des cônes de scorie, de la lave relativement fluide et pulvérisée par des petites explosions. Les débris retombent sur les côtés et ça fait des cônes de scorie. Alors là, c'est une éruption qui a été photographiée en 2009. Alors, le cône de scorie, une fois que l'éruption s'arrête, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un cône avec des belles pentes, un cratère. Là, par exemple, c'est le Paricutine, qui est une éruption en 42-43, et qui a été photographié ici en 2003. La végétation ne l'a pas encore colonisé. Et là, c'est un cône de scorie bien de chez nous, c'est la coupe des Alpes. Certains d'entre vous ont fait l'excursion là-dessus hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Ce coupe des Alpes a 80 000 ans, et vous pouvez comparer par rapport au volcan du Paricutine. On devine encore le cratère, mais les pentes régulières, mais la végétation a tout colonisé, ce qui pose un problème, j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que ces petites éruptions qui font des petits cônes de scorie, ça fait des dégâts locaux? Mais en général, ça fait pas de victimes humaines, parce que ça ne commence pas comme ça, il suffit de partir. Alors, par contre, on peut emmener les bestiaux, on peut déménager les enfants, les grands-mères et tout ça, mais on peut pas déménager les maisons, et les villages peuvent être couverts. Ici, par exemple, vous avez un village du Capilinos aux Açores, en 58. L'éruption commence, il y a eu zéro mort, mais le village était complètement détruit. Ça, c'est des photos que j'ai faites au même endroit, mais en 1986. Vous voyez, ce qui reste, c'est des maisons. Zéro mort, mais des dégâts. Alors, la biosphère locale est évidemment perturbée. Les vers de terre qui habitaient là sont morts, et les petits lapins, s'ils sont pas partis, sont morts aussi. La végétation a été intégralement tuée, mais au bout de quelques années, comme vous voyez au fond, là, la végétation repart. Et si vous revenez à cet endroit-là dans un siècle ou deux, il n'y aura plus aucune trace visible de cette éruption, sauf si bien sûr une autre a lieu après. Le deuxième type d'éruption, ce sont les coulées de lave. Alors ici, une coulée de lave au Piton de la Fournaise, qui a été photographiée en 2001. C'est notre volcan français le plus actif, et je vous invite vivement à aller passer quelques vacances à La Réunion. L'Ardèche, c'est bien pour voir les volcans. La Réunion, je crois que c'est un peu mieux quand même. Donc vous voyez un volcan avec quelques éjections de scorie et une coulée de lave qui sort. Alors, il y a la même chose en Ardèche, évidemment, des coulées de lave. Par exemple, la plus grande coulée de lave, la plus longue coulée de lave de France, c'est la coulée de Burgé, qui de mémoire fait 27 km de long. Et voici une gravure de la coupe des Alpes. Coupe, ça veut dire volcan, montagne volcanique en Ardéchois. C'est là où on était hier, ceux qui ont visité la source. Et voici une gravure donc du 18e siècle, où le dessinateur a dessiné le volcan. Alors on voit très bien le volcan, le cratère, et une magnifique coulée de lave qui dévale du cratère et qui arrive au bord de la rivière. Alors bien sûr, le dessinateur a peut-être un peu exagéré, en particulier la rivière n'est pas si importante que ça, mais on voit très très bien la coulée de lave. Comparé avec la coupe des Alpes que vous avez vue hier, ou qu'on a vu en photo, il y a deux, trois photos, ou qu'on en a bien vu hier par exemple, hier nous avons visité la source avec le bâtiment de captage, là où j'ai mis le petit cube, on était en plein bois, on ne voyait plus rien. Et là, ça pose un problème. Beaucoup de gens vont en vacances, en Ardèche, dans la chaîne des Puys, pour voir les volcans. Mais on ne voit presque plus les volcans maintenant, parce qu'il y a des bois de chênes, de noisetiers et tout ça. Les gens viennent voir des volcans, ils ne viennent pas voir des forêts de noisetiers. Il y en a partout, des forêts de noisetiers, des volcans, il n'y en a pas partout. Pourquoi maintenant il y a une végétation? Parce qu'il y a le recul de l'agropastoralisme. Avant, toutes ces montagnes étaient pâturées par des vaches, des moutons, des chèvres et tout ça, qui sont d'excellents agents de déboisement et qui en plus permettent de faire d'excellents fromages. Maintenant, il y a le recul de l'agropastoralisme et la végétation repart. Alors, on pourrait couper les arbres manuellement, mais premièrement, il faudrait employer des bûcherons, choses comme ça. Puis deuxièmement, les écologistes hurleraient, parce qu'à chaque fois qu'on arrache un brin d'herbe, les écologistes hurlent. Le résultat, c'est une désertification au sens humain et d'activité humaine de toutes ces régions dans nos pays d'Ardèche, une colonisation par la végétation et l'arrêt de la visibilité des volcans. Comme il y aura moins en moins de volcans à voir ici, dans la chaîne des Puy ailleurs, il y aura de moins en moins de touristes, et ça sera encore de plus en plus le recul de l'activité humaine. Je ne sais pas si c'est ça que veut Bruxelles, l'Europe et les écologistes, mais c'est à ça que ça arrive. Donc hier, rappelez-vous, nous étions au bord de la rivière, mais on ne voyait absolument pas ceux qui étaient dans mon groupe. J'ai dit, regardez, là, on voit les orgues, mais on ne voyait plus rien. Alors sur le volcan lui-même, quand une coulée de lave coule, ça ne fait pas beaucoup de dégâts à la biosphère, comme on voit ici à La Réunion. C'était un désert, une nouvelle coulée de lave, que j'ai photographiée ici en 1983, qui a coulé il y a quelques années avant, n'a pas fait de dégâts à la biosphère, parce qu'il n'y avait pas de biosphère. Par contre, si la coulée arrive en forêt, ça c'est par exemple à Hawaï en 2001, ben forcément, là où la coulée passe, les arbres trépassent. Et vous avez ici une forêt qui va être, au moins localement, en très mauvaise santé. Là, c'est la même chose que j'ai photographié à La Réunion en 83. Une coulée de lave est arrivée par en haut, là où il y a le brouillard, ce qui arrive assez souvent à La Réunion. Elle a traversé la forêt, et évidemment, là où la forêt était traversée, il n'y a plus d'arbres. Mais là encore, le front des coulées avance en général lentement, quelques kilomètres heure maximum, les gens ont le temps de partir, les animaux aussi, alors bien sûr, les vers de terre et les arbres ne peuvent pas partir, et ça fait des dégâts. Alors, quelque chose d'assez exceptionnel, je viens de vous dire que les coulées de lave, ça avançait assez lentement en général, on voit souvent des photos avec de la lave qui coule, mais c'est au milieu d'une coulée, le front est dans peut-être quelques kilomètres en amont du front. Le front va lentement. Il peut arriver qu'il y ait des circonstances exceptionnelles où le front de la coulée de lave avance très vite. Par exemple, quand il y a un lac de lave qui se vide, le front de la coulée peut avancer à plus de 40 km/h. Alors là, les animaux, sauf peut-être quelques gazelles, ont du mal à fuir. Et là, c'est des photos exceptionnelles prises par les Kraft. Et les ayants droit des Kraft m'ont autorisé à mettre cette photo dans Planète Terre, ces deux photos dans Planète Terre. C'est lors d'une éruption au Nyiragongo, en 1976-77. Le front de la coulée avançait à plus de 40 km/h. Il y a eu beaucoup de dégâts humains qui n'ont pas pu fuir à temps. Et là, c'est un éléphant qui, fuyant devant la coulée de lave, s'est quand même fait rattraper. Pourtant, un éléphant, ça peut aller assez vite quand ça galope. La coulée de lave très très fluide, qui ne faisait que quelques dizaines de centimètres d'épaisseur, a entouré l'éléphant, qui est évidemment mort. Et l'éléphant mort s'est avachi dans la coulée, et la coulée l'a contourné. Et on peut voir encore le trou avec la tête, le corps, on devine les pattes, on voit très bien la forme de la trompe. C'est un moulage d'un éléphant par une coulée de lave. Alors la première photo était faite en 77, un an à peu près après l'éruption. On voit déjà une fougère qui colonise la coulée. La deuxième photo était faite plus tard, en 1982. Alors on voit encore les ossements de l'éléphant dedans. Je ne sais pas si c'est les ossements d'origine ou s'il n'y a pas quelques gens du syndicat d'initiative locale qui ont rajouté des squelettes des os d'éléphant. Ça, je ne sais pas. Je ne suis jamais allé sur place. Alors, ces coulées de lave, en général, ça ne fait pas de dégâts animaux, sauf cas sur la biosphère, sauf cas exceptionnels, comme on vient de voir. Mais ça peut évidemment faire des dégâts aux habitations. Les coulées ne respectent rien, pas même le sabre. Et ici, vous avez par exemple la gendarmerie de Piton-Sainte-Rose, qui a été envoyée par une coulée de lave en 1977. La coulée a contourné la gendarmerie comme elle avait contourné l'éléphant avant, mais les gendarmes avaient largement eu le temps d'évacuer la gendarmerie, les gendarmes et les prisonniers qui y étaient enfermés. Alors la coulée de 77 est même rentrée par la fenêtre d'une cellule sans la casser. Alors la photo suivante montre que si les coulées ne respectent pas le sabre représenté par la gendarmerie, elles ne respectent pas plus le goupillon. Ici vous avez l'église de Saint-Rouen-Paris, Parangari-Cutiro. C'est le Paris-Coutine que je vous ai montré, qui a émis cette coulée en 1942. Là encore, la coulée qui a progressé lentement mais inexorablement a détruit des forêts, des cultures, Elle est arrivée dans le village, zéro mort, on avait évacué absolument tout le monde, même les poules, mais par contre, les maisons, qui étaient des petites maisons, ont été complètement ensevelies, et le seul gros bâtiment du village, qui était l'église, a été à moitié détruite et recouvert par la lave. Là, vous pouvez me voir, en 1977, j'avais 25 ans, et regardez ma grosse chevelure, noire, hélas, maintenant c'est un peu blanc. La photo suivante vous montre une vue aérienne de cette église du Paris-Coutines. Il reste la façade et un petit bout du cœur. Les coulées ne respectent rien. Le troisième type d'éruption, ce sont les dômes de lave. C'est quand il sort une lave très très visqueuse, qui ne peut pas couler, et ça fait un dôme. Si le dôme sort tout seul, sans manifestation annexe, comme on va voir tout à l'heure, ça ne fait pas de dégâts, sauf très très localement. Des dômes de ce type-là, on en a bien sûr en Ardèche. L'Ardèche, avec la Haute-Loire, c'est le pays des sucs. Et sucs, ça veut dire montagne pointue en langue locale. Et la plupart des montagnes pointues en langue locale, en fait, sont des dômes de lave. Le plus connu d'entre eux, qui est en Ardèche. Donc, c'est le Gerbier des Joncs que vous avez ici sur cette photo. Il n'y a pas que le Gerbier des Joncs avec ses milliers de touristes. Un de mes dômes préférés, c'est ce qu'on appelle le Gouléou, le petit gerbier, qui est également en Ardèche. Et qui est vraiment remarquable de beauté. Alors, ce type d'éruption dôme, si le dôme lui-même n'est pas très dangereux, sauf évidemment si on est juste à ses pieds, il peut y avoir des éboulements, s'accompagne souvent de nuées ardentes et autres coulées pyroclastites. Et là, vous avez par exemple une photo d'une nuée ardente, petite coulée pyroclastite, qui a eu lieu en 2013 dans une île indonésienne. Alors ça s'accompagne de coulées pyroclastites qui dévalent les pentes, ça s'accompagne aussi de panaches qui montent en altitude, subpliniens ou pliniens, suivant la nuance. Avec Pline, c'est celui, un des premiers géologues qui a étudié l'éruption du Vésuve pendant l'Empire romain. Alors, ces panaches pliniens sont pas très dangereux, sauf que de temps en temps, ils s'effondrent sur eux-mêmes. C'est ce qu'on voit un petit peu sur la photo de droite. À gauche de la photo de droite, si ces panaches pliniens s'effondrent sur eux-mêmes, alors ça peut faire des coulées pyroclastites qui ravagent tout. Alors par exemple, la biosphère locale n'aime pas ça du tout, ni les coulées pyroclastites, ni les effondrements de dômes. Là, vous avez l'île indonésienne sur laquelle je vous ai montré une ardente et le petit dôme. La photo satellite du haut, c'est l'île avant une éruption. Et la photo du bas, c'est l'île pendant l'éruption, vous voyez qu'il y a à peu près 20% de l'île qui est toute blanche, toute beige, parce qu'elle est recouverte de cendres qui ont été émises par les panaches pliniens, subpliniens, et éventuellement par les nuées ardentes. Et à droite, vous avez une forêt, là, qui n'a vraiment pas apprécié du tout. Et les coulées pyroclastites, ça peut aller très vite. Et là, s'il y a des gens, des animaux, ils n'ont pas le temps de fuir et ils meurent. Alors, si les humains ne partent pas à temps, si les animaux ne partent pas à temps, s'il y a des coulées pyroclastites, ça peut être très grave. Là, vous avez la ville de Plymouth, l'île de Montserrat, qui est une île des Antilles anglaises. Alors, les habitants sont partis à temps. Il y a eu donc zéro mort, mais vous voyez ce qui est devenu de la ville. La ville est complètement rasée et inhabitable. Alors, quand les habitants ne partent pas à temps, c'était le cas à Pompéi en 79, eh bien, ils meurent sur place. Alors, tout le monde connaît ces images assez saisissantes, ces espèces de cadavres fossilisés. En fait, peu de gens savent comment se sont faits ces cadavres, humains ou animaux. Quand on a fait les premières fouilles à Pompéi, il y a au moins un ou deux siècles, les fouilleurs sont aperçus qu'en grattant les cendres très claires et consolidées, il y avait dedans des trous qui avaient une forme bizarre. Ils ont compris que ces trous, c'étaient les empreintes des humains ou des animaux qui ont été recouverts par les cendres qui sont tombées. Donc, quand ils ont compris ça, chaque fois qu'ils trouvaient un trou qui était potentiellement un humain ou un animal, ils ont coulé dedans du plâtre, ils ont entendu que le plâtre prenne, et ensuite, en dégageant les cendres, ils ont eu ces espèces de moulages, des cavités laissées par les humains ou les animaux qui étaient morts lors de l'éruption 79. Mais l'homme lui-même n'existe plus, il y a peut-être quelques bouts d'os là-dedans, c'est une cavité remplie par du plâtre. Alors, ça peut faire donc de ces éruptions de gros dégâts locaux, mais si on s'éloigne de l'éruption lui-même, ça fait pas grand-chose. Par exemple, je vous ai montré une photo de l'éruption de Montserrat, qui avait enseveli la capitale, à 60 km de Montserrat et à la Guadeloupe. Et à la Guadeloupe, les dégâts étaient minimes. la biosphère n'était qu'influencée que très localement. Peut-être que ça a un peu perturbé quelques récoltes en Guadeloupe, mais ça a permis de faire des images assez intéressantes, on dirait des chutes de neige, ce qui sont assez rares en Guadeloupe. Donc la biosphère n'est perturbée que localement par ce type d'éruption. Alors, une des conséquences de l'éjection très rapide, explosive, de ces éruptions qui font des panaches pliniens, qui font des nuées ardentes et autres coulées pyroclastiques, comme il y a de gros volumes de lave qui sortent en très peu de temps, là où il y avait le magma, une espèce de poche ou de réseau de filons, se vide et ça fait un effondrement à l'aplomb de cette poche vide, ce qu'on appelle une caldeira. Et souvent, on voit mieux les calderas que les recouvrements. Et à chaque fois que vous voyez une caldeira de ce type, si vous voyez que la caldeira fait 10 km3, c'est qu'il y a eu une dizaine de kilomètres cubes qui est sortie en quelques heures à quelques jours et qui se manifeste par un trou. Alors la plus grande éruption de ce type au XXe siècle fut celle du Pinatubo en Philippines en 1991. Et il y a 10 milliards de mètres cubes, ça fait, qui fait 10 km cubes, qui furent éjectés en quelques jours. Vous avez ici une photo du panache qui a très largement atteint la stratosphère. Et le résultat de cette éjection de 10 km cubes en quelques jours, c'est la formation d'un vide en profondeur. Ce vide s'est effondré et ça fait une caldeira qui fait 2,5 km de diamètre et qui a été photographiée ici. Quelques années après l'éruption, vous voyez que la montagne commence à revertir. Alors, ces éruptions, est-ce que ça fait des dégâts globaux? Ça fait des dégâts locaux, mais est-ce que ça fait des dégâts globaux? Eh bien, ces éruptions émettent des poussières, des aérosols soufrés, qui sont projetés dans la stratosphère, c'était le cas du Pinatubo, et restent plusieurs années. Là, vous avez un certain nombre, une carte qui vous indique la quantité de, ça doit être de soufre, l'absorption de l'atmosphère plus ou moins opaque. Et vous voyez qu'en temps ordinaire, l'atmosphère a une certaine transparence. Et après l'éruption, on voit que l'atmosphère devient beaucoup moins transparente, la haute atmosphère, avec les couleurs rouge-jaune, et que cette non-transparence, cette diminution de la transparence, dure plusieurs années. Et cette absorption de la lumière, etc., dans la haute atmosphère, ça abaisse la température moyenne du sol, et ça a baissé la température moyenne de la Terre de 0,6 degrés en moyenne pendant à peu près 2 à 3 ans. Donc là, il y a un effet très léger, mais il y a un effet climatique qui a duré 2 à 3 ans, dû à une éruption donc de 1991. Vous imaginez, s'il y a une éruption 1000 fois plus grosse, qu'est-ce que ça peut faire? Alors, conclusion de toutes ces éruptions ordinaires, c'est elles peuvent gêner les gens. Elles n'ont des conséquences que locales et ou temporaires sur la biosphère, tout au plus. Ça fait baisser la température moyenne de la Terre de quelques dixièmes de degrés, donc quelques animaux ont peut-être un peu froid pendant 2 ou 3 ans, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et de tels volcans, tout ce que je viens de vous montrer, c'est beaucoup plus impressionnant que réellement perturbant. Mais en plus de toutes les éruptions ordinaires, comme toutes celles que je viens de vous montrer, des éruptions ordinaires qui arrivent plusieurs fois par an, pour les cônes stromboliens, les coulées de lave, plusieurs fois par siècle, pour les éruptions avec panache plinien et nuées ardentes. Il y a des éruptions extraordinaires. Alors là, j'ai montré fait un petit montage où j'ai mis un panache d'une énorme éruption plinienne grossie sur la Terre. Ces éruptions extraordinaires n'arrivent que tous les quelques siècles, ou tous les quelques dizaines de millions d'années. Et ces éruptions extraordinaires, historiquement, au sens, depuis l'invention de la photographie, il n'y en a jamais eu. Et on va voir s'il y en a eu historique d'avant l'invention de la photographie, et voir s'il y en a eu dans les temps géologiques, là où il n'y avait aucun témoin, et où on a besoin du géologue pour savoir ce qui s'est passé. Alors, on vient de finir les éruptions ordinaires par les éruptions avec panache plinien, nuées ardentes, et dont une des conséquences, c'est de faire une caldeira. Je vous montre que des calderas, on a vu la plus grosse caldeira faite au XXe siècle, qui faisait 2,5 km avec le Pinatubo, et on parle de l'éruption du siècle. Il peut y avoir des calderas beaucoup plus grosses. Alors je vous montre ici une caldeira en Europe, qui est aux Açores, qui fait quand même 6 km de diamètre, et qui date que de 22 000 ans. 22 000 ans, il n'y avait pas de photographe, mais il y avait déjà des gens, peut-être pas aux Açores, mais il y avait déjà des gens. 22 000 ans, c'est à peu près l'époque où les artistes peignaient Lascaux, c'est après la grotte Chauvet en Ardèche, qui a plus de 37 000 ans, si je ne me trompe pas. Et cette caldeira est la manifestation très visible de l'expulsion d'une centaine de kilomètres cubes de projection dans l'atmosphère. Ça a dû bien plus perturber le climat mondial que l'éruption du Pinatubo. Alors des calderas comme ça, il y en a en Europe, ça c'est aux Açores, mais il y en a par exemple d'énormes dans la région de Rome, le volcanisme du Latium, qui n'est pas vieux du tout, hein, qui a moins d'un million d'années. Pas vieux pour un géologue, ça veut dire moins de quelques millions d'années. Et par exemple, la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo est sur le bord d'un cratère explosif qui est lui-même à l'intérieur d'une grande caldeira. S'il y avait reprise de l'activité dans le volcanisme du Latium, ce serait absolument catastrophique parce qu'il faudrait déplacer des millions et des millions d'individus. On parle toujours du problème de Naples. En Italie, bon, Naples est peut-être un problème, enfin bon, c'est un petit problème, il y a peut-être que 2 à 3 millions d'habitants autour du Vésuve. Le volcanisme du Latium et de Toscane, c'est pas quelques millions d'habitants, si tout ça se réveille en même temps, c'est quelques dizaines de millions d'habitants. Donc il faut penser que l'Europe devrait mettre de l'argent dans une cagnotte pour le cas où ce volcanisme se rallumerait. Alors il peut y avoir des calderas encore plus grosses, ce qui témoigne d'éruptions explosives encore plus importantes. Je vous montre la caldeira de Long Valley, qui fait 30 km de diamètre et qui a dû éjecter à peu près 1000 km3 de cendres. Ça fait un niveau qu'on va voir tout de suite, qu'on appelle le Bishop Tuff. Et ça, il y a 760 000 ans. Alors 760 000 ans, en Europe, il n'y avait que des néandertaliens, mais enfin, il n'y a personne aux États-Unis. Mais sur tout ce qu'on appelle l'Ancien Monde, il y avait déjà des hommes, néandertaliens ou Homo erectus, et ils ont dû le sentir passer. Alors, je vous ai parlé de Bishop Tuff. Voilà une couche de Bishop Tuff. Les couches du bas sont peut-être déposées en quelques jours, et la grosse couche unique en haut, qui fait plusieurs mètres de haut, vous avez un personnage qui vous donne l'échelle, peut-être cette grande couche unique du haut s'est déposée en moins d'une heure, ce qui vous montre l'importance des retombées. Alors, les Américains ont bien étudié cette caldeira de Long Valley, et c'est le prototype de ce qu'on appelle un supervolcan. C'est pas un terme très géologique, c'est plus un terme de la presse scientifique à la recherche du sensationnel. Ces supervolcans sont des éruptions géantes. Alors, quand je dis géantes, vous voyez l'ouest des États-Unis, vous avez la couche de cendres émise lors de cette éruption géante, et vous voyez que à 300 km de l'éruption, vous avez encore quelques centimètres de recouvrement par des cendres, et si vous recouvrez un champ de cendres de 5 cm, eh bien inutile de vous dire que les récoltes de ce champ seront nulles pendant l'année et assez perturbées pendant les années qui viennent. Donc ça perturbe localement la biosphère, et ça la perturbe un local qui peut déjà être très grand, mais est-ce que ça peut la perturber plus que localement? Alors, aux États-Unis, il y a un très grand supervolcan très célèbre, c'est Yellowstone, alors qui est très tranquille depuis quelques milliers d'années, qui se manifeste simplement par de super geysers, etc. Je vous ai suggéré d'aller à la Réunion en vacances, je vous suggère aussi d'aller à Yellowstone, c'est vraiment extraordinaire. Et voici les zones recouvertes par des cendres des 3 dernières grandes éruptions de Yellowstone, et vous voyez que la dernière grande éruption, qui a 630 000 ans, je vous dis, il y avait déjà des Néandertaliens, ça a recouvert de cendres, mettons, la moitié des États-Unis. Alors, beaucoup d'États qui ont été recouverts, c'est les grandes plaines du Mississippi, tout ça, c'est les grandes plaines de culture. Pour simplifier, c'est le grenier à blé, à maïs et à soja du monde. C'est-à-dire que si cette éruption avait lieu maintenant, toute l'agriculture américaine serait très perturbée, et tout le commerce alimentaire du monde, si la production de maïs, de blé, de soja du monde est diminuée de 25 ou 30% à cause de cette éruption, vous voyez les perturbations abominable que ça ferait, il y aurait des famines, renchérissement des produits et tout ça, ça serait très grave. Alors on peut fantasmer, si vous regardez la date de ces éruptions, globalement, la dernière c'est il y a 630 000 ans, l'avant-dernière il y a 1,3 million d'années, à peu près le double, et l'avant-avant-dernière il y a 2,1 million d'années, à peu près le triple. On a l'impression que depuis 2 millions d'années, il y a une grosse éruption à peu près tous les 6 à 700 000 ans. Or, la dernière, c'est il y a 630 000 ans. Donc, si ce volcan continue avec ce rythme d'une éruption, tous les 600 à 700 000 ans, eh bien, la prochaine est pour bientôt. Alors, bientôt, ça peut être dans 10 ans, comme ça peut être dans 10 000 ans. Mais, je ne sais pas, personne ne sait, Yellowstone est très surveillé, mais si ça arrive, ça sera très grave, évidemment, pour toute la biosphère américaine. Ça pourra être grave avec des répercussions climatiques très importantes, bien plus grande que celle du Pinatubo, et ça sera catastrophique, j'irai, pour l'économie agricole et alimentaire humaine. Alors, les volcans depuis le dernier demi-million d'années, il y en a 6, 3 aux États-Unis, 1 au Japon, 1 en Indonésie et 1 en Nouvelle-Zélande. C'est ce que la grande presse scientifique appelle les supervolcans. Ce sont des phénomènes rares qui émettent de façon explosive, paroxysmale, plus que 1000 km3 de lave. Ça fait des caldeiras gigantesques parce que des champs magmatiques gigantesques, pleines de magma acide, se sont vidées. Ça se traduit par une activité sismique, tectonique et géothermique intense. Bref, c'est ça les supervolcans. Est-ce que certains de ces supervolcans, du dernier million d'années simplement, ont eu des influences majeures sur la biosphère ? Eh bien, probablement oui, si on prend le plus grand des supervolcans récents, donc qui n'est pas vieux du tout, là, que 73 000 ans, c'est le volcan de Toba en Indonésie. Il se manifeste aujourd'hui par une caldeira de 30 km de large sur 100 km de long. Et lors de la dernière éruption de cendres, il y a 2800 km3 qui ont été émis. C'est absolument monstrueux. Là, vous avez une vue satellite. C'est sur l'île de Sumatra. Alors là, vous avez une carte géologique qui vous montre que dans la caldeira qui a été faite, il y a 400 mètres d'épaisseur de débris retombés, parce que le panache qui monte en haut, il y en a quand même une partie qui tombe sur place. Il y a 400 mètres d'épaisseur dans la caldeira. Et en hors de la caldeira, sur plus de 25 000 km², il s'est déposé entre 50 et 150 mètres d'épaisseur. Donc évidemment, la biosphère locale était complètement perturbée. Il y a 800 km de cubes de cendres qui sont partis beaucoup plus loin, qui ont pu se déposer sur une très grande surface. Et ces 800 km3 de cendres qui sont partis loin ont été accompagnés de 10 milliards de tonnes d'acide sulfurique qui sont partis dans la stratosphère. Alors ces cendres sont évidemment en bonne partie retombées dans la mer, et il y a des endroits sur les côtes africaines, malgaches, etc., où on trouve dans les plages anciennes plein de pierres ponces flottées, les pierres ponces à flotte, qui indiquent jusqu'où sont arrivés tous ces débris. Et tout ça a été émis, d'après les géologues, en, on va dire, moins de 2 semaines, 9 à 14 jours, qui fait une éjection de cendres d'à peu près 8 millions de tonnes par seconde. Vous voyez ce que c'est qu'un super éruption, d'un super volcan explosif. Alors, si on simule les effets climatiques de l'éruption du Toba, il y a 73 000 ans, alors c'est une modélisation, les résultats sont absolument terrifiants. Si vous prenez la température moyenne, zéro, ça ne veut pas dire qu'il faisait 0 degré en Indonésie, mais c'est la température moyenne du monde, et bien vous voyez que la température moyenne du monde, d'après ces simulations, a baissé de 15 à 20 degrés, et il a fallu attendre une quinzaine d'années pour que ça se rétablisse. Et si vous regardez l'albédo, c'est-à-dire la variation de réfléchissement de l'atmosphère, après l'éruption, l'albédo est devenu très très fort, parce qu'il y avait plein de poussière blanche, et il y avait plein d'aérosols d'acide sulfurique dans notre atmosphère qui renvoyaient les rayons du soleil. Et il y a une relation, parce que les rayons du soleil étaient renvoyés par la haute atmosphère, ils n'atteignaient pas la surface, et parce que l'albédo était grand, la température a été très faible. Il est évident que des éruptions majeures de ce type sont de bons candidats pour expliquer certaines perturbations de la biosphère. Si pendant 10-15 ans, la température moyenne est 20 degrés plus basse que la température banale à un endroit donné, eh bien, ça fait des dégâts. Alors ça, c'est de la théorie. Est-ce qu'on a eu des enregistrements géologiques montrant ce qui s'est vraiment passé pour l'éruption de Toba ? Alors, c'est assez difficile à montrer, parce que l'éruption de Toba s'est déclenchée pendant que commençait le début de la dernière glaciation, la glaciation du Wurm. Elle avait commencé avant, la glaciation commençait tout doucement, pour des raisons qui n'ont rien de volcanique, et paf, à ce moment-là, il y a eu l'éruption du Toba. Donc c'est assez difficile de distinguer qu'est-ce qui est dû simplement au commencement normal de la glaciation, c'est pour des causes astronomiques, et ce qui est dû au Toba. Mais si on regarde, pour regarder, donc, il y a des études paléontologiques qui ont été faites. Ici, dans le sud de l'Italie, le nombre d'espèces d'arbres qui avaient, vous voyez, une chute drastique du nombre d'espèces d'arbres. Et on est passé par rapport au nombre normal de 90% à peu près 30% d'arbres. Donc, il y a plus de la moitié des espèces d'arbres qui ont disparu. Là, c'est une étude qui a été faite en bas, dans une quantité de pollen et la variété des pollens dans une tourbière, qui est un milieu qui conserve bien les pollens. Et là encore, la variété des pollens a drastiquement diminué, ce qui montre une perte de la biodiversité végétale, en l'occurrence, de plus de la moitié dans ce coin de Haute-Saône ou dans ce coin de l'Italie. Là, je vous dis encore, c'est assez difficile à faire la part entre le début de la glaciation, mais qui est un phénomène lent et progressif, et l'éruption du Toba, qui est signée par le trait rouge, et il semble bien que l'éruption du Toba ait quand même fait des gros dégâts à la biosphère en Italie et en France. Alors, encore plus fort, les généticiens, en analysant l'ADN des différentes populations humaines, vous prenez les populations, vous prenez les Européens, les Asiatiques, les Inuits, les Amérindiens, les Africains du Nord, les Africains du Sud, enfin toute la population humaine, les Chinois, que sais-je encore, et vous y regardez, vous analysez leur ADN, un peu comme font les policiers pour retrouver les coupables, et ils arrivent avec les différents pourcentages de variations dans l'ADN, d'estimer la population mondiale qui pouvait y avoir à l'époque. Vous savez que s'il y avait une très peu faible population mondiale, il y a beaucoup de consanguinité. S'il y a une forte population mondiale, il y a moins de consanguinité. Et par exemple, entre un Africain du Sud et un Japonais. Et tout ça, ça se voit dans l'ADN. Et les résultats des généticiens, c'est que vers 80 000 ans, la population humaine mondiale aurait été de 500 000 à 1 million d'individus. C'est pas beaucoup. Vous voyez ce que c'est que par rapport aux 7 milliards actuels. Eh bien, il semblerait, d'après des études génétiques, que ces quelques centaines de milliers d'individus qui vivaient sur Terre, toute Terre confondue, on va dire un million pour simplifier, aient été réduits à quelques milliers juste après l'éruption du Toba. C'est donc un résultat génétique. Je suis incapable de vérifier personnellement la validité ou la non-validité de la chose, mais il semble, d'après ces résultats, que la population humaine, mettons, soit passée de 1 million à 10 000, ce qui fait qu'elle a été divisée par 100. C'est une catastrophe épouvantable au point de vue de l'humanité. Ça a dû affecter sans doute plein d'autres espèces, dont le nombre d'individus, et peut-être ce qu'on appelle la catastrophe de Toba, aurait pu être la fin de l'humanité. L'humanité, si ces données génétiques sont bonnes, a failli mourir à cause d'une éruption volcanique en Indonésie. Alors que, a priori, l'humanité devait être beaucoup moins sensible aux perturbations que maintenant. C'était des populations de chasseurs-cueilleurs, et on peut se demander, les populations de chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans la forêt gabonaise, ne devaient pas, a priori, être moins facilement perturbés que nous, qui vivons d'une agriculture et tout ça. Et pourtant, malgré cette côté peu fragile des populations de chasseurs-cueilleurs, malgré ça, si c'est bon, le nombre de la population a été divisé par 100. Et ça a dû être pareil pour les mammouths, les platanes, et plein d'espèces vivantes. Alors ça, c'était des explosions géantes des supervolcans, qui étaient des volcans explosifs. Existe-t-il des super coulées de lave? Et est-ce que ces super coulées de lave, est-ce que ça peut faire des dégâts à la biosphère? Alors je vous montre une photo d'une petite coulée de lave, de rien du tout, qui a été émise en février dernier, et qui a quand même émis 1,4 km3, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'il existe des super coulées de lave? Alors, on va aller à 10 km d'ici, dans le village de Mirabel, sur le rebord du plateau du Coiron. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont en vacances ici, je vous invite vivement à visiter les Coirons, ces beaux villages, etc. Si vous allez à Mirabel, vous voyez que le village est perché au sommet d'une colline. En dessous, il y a des terrains blancs, c'est des terrains sédimentaires. Et au-dessus, il y a une falaise noire qui fait tout le tour de la montagne. En fait, cette falaise noire, c'est des coulées basaltiques, coulées de lave, qui ont 7 millions d'années, et qui recouvrent complètement les terrains qui sont dessous. Alors, ce paysage a frappé beaucoup de gens. Par exemple, voici une gravure du bord du plateau du Coiron, dessinée au XVIIe siècle. 18e, excusez-moi. Là, vous avez une carte géologique qui vous montre les terrains sédimentaires normaux du coin. Et vous voyez qu'en violet sont dessinées les coulées de lave qui dessinent des plateaux perchés à 100-200 mètres au-dessus des plaines environnantes. Et il s'agit d'un empilement de coulées basaltiques qui remplit une vallée très large et qui sont maintenant perchés à cause de l'érosion. Je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. On est il y a 7 millions d'années, le pays est à peu près plat, vous avez une ample vallée très large. Et vers 7 millions d'années, une large coulée de lave envahit cette large vallée. Et l'étape 3, évidemment la lave se refroidit, devient une belle roche, alors qu'avant elle était rouge. Et l'étape 4, c'est que l'érosion fait son travail, surtout que la région a plutôt tendance à se soulever. Mais l'ancienne coulée de basalte est plus résistante que les calcaires et les marnes qui sont dessous. Ça protège son substratum de l'érosion et l'ancienne vallée se retrouve maintenant perchée. C'est ça le basalte des Coires. Alors, on peut estimer le volume émis entre 5 et 10 km3. Vous voyez que c'est absolument pas négligeable, mais on ne sait pas en combien de fois. Plusieurs fois, c'est sûr, parce qu'on voit des coulées superposées. Mais les éruptions, il peut y en avoir plein de petites éruptions, puis quelques éruptions majeures, et on ne sait pas si les éruptions majeures sont faites en 50 000 ans ou 1 million d'années. C'était simplement pour vous présenter de grandes coulées de lave dans notre région immédiate, puisque nous sommes à Saint-Julien-de-Serre, et Mirabel, vous voyez, c'est vraiment pas loin. En rouge, là, je viens de noter sur la diapo qui arrive l'emplacement du basalte des Coirons, et vous voyez que ça fait quand même une belle surface et un beau volume. Alors, est-ce qu'on a plus grand que ces Coirons? Ces Coirons, leur seul intérêt, c'est d'être ardéchois. Eh bien, par exemple, si vous allez en Patagonie, vous avez la même chose, mais trois fois plus long, trois fois plus large, et trois fois plus épais. Ce qui fait, en mon priori, que le volume de lave émis, du moins ce qui reste, c'est entre 150 et 300 km3. Voilà, sur la diapo, j'ai remis l'emplacement de ces plateaux basaltiques. Et si vous allez au pied, vous voyez vraiment un empilement de coulées. C'est beaucoup plus épais que les Coirons. Là, vous voyez 5, 6, 7, 10 coulées. Et ça fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et ce plateau volcanique s'appelle la Meseta del Lago Buenos Aires. Alors, pour apprécier la taille de cette Meseta, on peut regarder au loin. Tout ce plateau qui ferme l'horizon, c'est les coulées de basalte. Et là, sur cette diapo suivante, vous voyez en bas le paysage tel qu'on l'a vu à la diapo précédente, et en haut, l'interprétation. Tout ce qui est entre le trait rouge, continu ou pointillé, et le trait jaune, continu ou pointillé, c'était les coulées de basalte dégagées par l'érosion. Et puis j'ai mis des traits verticaux rouges dans la photo du haut. Qu'est-ce que c'est que ces traits verticaux rouges? Si vous vous promenez là-bas, si vous allez là-bas vers le Cerro de Zeballos, qui est une très belle montagne, vous voyez des murs parfaitement naturels qui sont faits de basalte, et murs qui séparent des compartiments à droite et à gauche du mur, c'est des roches sédimentaires ordinaires, des grès en l'occurrence à cet endroit-là. Ces murs, c'est une fissure remplie de basalte et maintenant dégagée par l'érosion. On appelle ça un dike. Ah, voici un dike avec un personnage qui donne l'échelle. Avant, c'était un groupe de profs qui donnait l'échelle. Alors, comment fait-on des dikes? Imaginez l'étape 1, une plaine ou un plateau. Étape 2, un volcan. Alors, j'ai dessiné le volcan type image d'Épinal et qui fait des grandes coulées de lave qui recouvre de vastes surfaces. Étape 3, le volcan, évidemment, s'arrête, meurt, la lave se refroidit. Et l'étape suivante, l'érosion enlève tout, par endroits, des fois garde les coulées de lave, mais quelquefois elle enlève tout, et il ne reste que la fissure plus dure, remplie par le basalte. Je reviens en arrière, vous voyez la fissure par où est montée la lave pour faire les volcans, et la photo suivante, la fissure dégagée par l'érosion. C'est ça, le dike. Eh bien, les centaines de kilomètres cubes de lave de ces plateaux argentins ont été émis par des centaines de fissures, chacune d'entre elles ayant plusieurs kilomètres de long. C'est ça qui alimente les grands massifs volcaniques. On est loin des cheminées des volcans avec des images d'épinal, c'est une espèce de tuyau. Ce qui alimente les volcans, en général, ce ne sont pas des tuyaux, ce sont des fissures. Alors, il y en a des dikes aussi, bien sûr, dans les Coirons. Alors, allez vous y promener, c'est vraiment pas loin. Par exemple, celui de gauche, là, qui est très joli. Je l'ai photographié hier, je me suis dit, oh, j'avais que la photo de droite pour vous montrer. Je lui ai dit, la photo de droite, elle est pas très belle, je suis retourné dans les Coirons. Et j'ai photographié un dike dans les Coirons. Alors, connaît-on dans le monde des éruptions moins vieilles que les Coirons ou les éruptions argentines, qui ont quand même quelques millions d'années? Voire historique, s'il y avait des gens qui ont pu décrire les choses d'à peu près la même taille que les Coirons ou la Meseta. Alors, on connaît une éruption comme ça, l'éruption du Laki, qui a produit 14 km3 de basalte. Je vous rappelle que les Coirons, c'est entre 5 et 10 km3. Donc, le Laki, c'est 14, vous voyez, c'est du même ordre de grandeur que les Coirons. Mais là, on sait en combien de temps ça s'est fait. Ça s'est fait en 7 mois, entre le 8 juin 1783 et le 7 février 1784. 14 km3 de lave émis en 7-8 mois. Tout ce qui est rouge sur cette photo satellite du sud de l'Islande, c'est cette coulée du Laki. J'ai mis les Coirons à la même échelle, tout à fait en bas à gauche. Donc la diapo suivante, vous avez l'Islande en entier. La coulée du Laki, eh bien, 1783, février 1784. Et les Coirons à la même échelle, qui sont un grand plateau à l'échelle de la France, mais qui sont ridicules à l'échelle de la coulée du Laki. Alors on va regarder à quoi ressemble la surface de ces coulées émises donc au XVIIIe siècle, et les fissures émissives, on va les voir que 230 ans plus tard, parce qu'évidemment, en 1783-84, il n'y avait aucun photographe pour photographier à quoi ça ressemblait pendant l'éruption ou juste après. Alors voilà la surface d'une branche de la coulée du Laki. C'est un champ de cailloux, mais maintenant complètement colonisé par les lichens. Et vous avez un petit personnage qui vous donne l'échelle. Le personnage, il est petit parce que la photo est prise de loin, mais c'est un homme tout à fait normal, c'est pas un nain. Et là, vous avez la source de ces coulées. Toutes ces coulées, ces 14 km cubes de lave sortis en 7-8 mois, ont été émis par une gigantesque fissure. Et maintenant qu'on voit, c'est une fissure de 27 km de long. À l'emplacement de cette fissure, on voit les manifestations des derniers bouffées de lave qui sont sorties, qui font 115 petits cônes alignés sur cette fissure. Donc, vous revenez ici dans quelques millions d'années, vous aurez un grand, tous les cônes et tout ça ont disparu, mais vous aurez un grand dike de 27 km de long, par où est sorti, sont sortis ces 14 km cubes de lave. Alors, aucun témoin n'a photographié évidemment, mais même n'a dessiné ce qui se passait près de la fissure émissive en 1783. Il y avait des habitants d'Islande, mais ça devait ressembler à l'éruption du Krafla. L'éruption du Krafla, qui est un modèle réduit du Laki, puisqu'il est sorti que 0,1 km cube de lave, émis du 18 septembre 1984. Alors on a pu faire des photos. Le débit de lave était 10 fois plus faible qu'au Laki, et ça a duré 20 fois moins de temps. Mais enfin, ça était quand même très impressionnant. Regardez ces photos. Alors l'éruption du Laki, c'est la plus importante et la plus meurtrière des éruptions laviques des temps historiques. Je dis éruption lavique parce que les éruptions explosives, ça a pu faire plus de dégâts. Mais le Laki n'a pas fait beaucoup d'explosions. Ça, sur place, ça devait cracher assez fort, mais c'est surtout des laves. Je vous rappelle qu'il est sorti 14 km cubes de lave. Il y a des milliards quand même de tonnes de particules fines qui ont été émises dans l'atmosphère. On estime à 15 millions de tonnes d'acide fluorhydrique qui a été émise, 20 millions de tonnes de CO2 et 120 millions de tonnes de SO2. SO2 avec de l'eau, ça fait de l'acide sulfurique. Et tout ça, les cendres fines dans l'atmosphère, l'acide fluorhydrique, l'acide sulfurique, le CO2, ça a complètement perturbé le climat et la mortalité a été catastrophique. Un quart de la population islandaise est morte. Alors, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont été empoisonnés. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont été cuits par la coulée de lave, ils sont morts de faim. Et pourquoi ils sont morts de faim? Parce qu'il y avait deux sortes de gens qui habitaient en Islande à l'époque. Il y avait les pêcheurs, eux ils n'ont pas été touchés. Et il y avait les éleveurs. Les éleveurs, ils mangeaient du bétail, bovins, ovins, chevaux également. Et on estime, d'après les relevés, des registres paroissiaux et tout ça, que la moitié des vaches, les trois quarts des moutons et les trois quarts des chevaux sont morts. Donc forcément, les gens qui vivaient de l'élevage sont morts aussi. Et probablement c'est le fluor qui a empoisonné les bestiaux. Le fluor est très bien fixé par les plantes, et les animaux qui broutent les plantes sont morts d'une maladie qu'on appelle la fluorose, c'est classique. Ils sont peut-être morts aussi de ce qu'on appelle les cheveux de pelée, c'est des cendres fines qui tombent dans les prairies, qui forment des petites aiguilles de lave, et qu'une vache broute ça, ça fait de la perforation stomacale ou intestinale, c'est très mauvais. C'est une des plaies des éruptions, de certaines éruptions à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, des éruptions font des cheveux de pelée et des aiguilles de lave qui peuvent être emportées par le vent. Il y a de l'élevage à la Réunion, et quand il y a eh bien les paysans font très attention de ne pas faire sortir leurs bêtes ou les mettre dans un champ qui a été sous le vent pendant une éruption où il y a émission de cheveux de pelée et de cendres en aiguille. Alors maintenant, il y aurait une éruption comme ça, avec la solidarité internationale, on sauverait la population, mais à la fin du XVIIIe siècle, il y a un quart d'Islandais qui sont morts de faim, dans l'indifférence absolument générale en Europe et dans le monde. Alors, est-ce que cette éruption du Laki a eu des répercussions mondiales, en dehors de tuer le quart de la population islandaise? C'est la première fois dans l'histoire qu'on a établi sérieusement une relation entre des anomalies météorologiques et une éruption lointaine. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Je cite deux noms. Mourgue de Montredon, qui a fait ses relations en 1783, donc deux mois après le début de l'éruption. Et il y a le célèbre Benjamin Franklin. Vous avez un tableau qui montre, quand il étudiait les décharges électriques, la foudre et le tonnerre, et qui est un Américain suffisamment important pour qu'il ait sa tête sur les billets de banque. Alors, par exemple, ici, on peut lire des registres paroissiaux d'un petit village d'Eure-et-Loir en 1783,
qui parle des intempéries de l'air et des saisons, et il dit que dès le, vous avez le registre paroissial à droite et la traduction bon français à gauche, dès le mois de juin 1783, il s'est levé pendant 2 mois les matins et pendant les journées des brouillards extraordinaires dont l'odeur était fétide. Ils ont nui prodigieusement aux productions de terre, de la terre, en sorte que les blés ont mal fleuri et peu grainé. La récolte a été médiocre, en sorte qu'il a fallu 4 nombres de gerbes pour donner 1 septier de blé très moucheté. Les terres du fort au faible n'ont produit que 10 nombres. La vendange a aussi été médiocre. Chaque quartier de vigne n'a pas donné plus qu'un poinçon. Ça, c'est pour l'année des récoltes. Alors, le deuxième paragraphe parle de l'hiver. Le froid s'est fait sentir dès la fin d'octobre et a toujours été en augmentant. Le 10 décembre, les grandes gelées ont commencé et n'ont fini qu'au 10 février 1784. Pendant tout ce temps, la terre a été couverte de neige qui tombait presque tous les jours. Elles sont augmentées jusqu'à couvrir la terre jusqu'à 2 pieds généralement. Et dans les endroits où le vent l'amoncelait, il s'en est trouvé jusqu'à 5 pieds d'élévation. Et c'est signé par le curé du village qui s'appelait Monsieur Pétion. Alors ça, c'est la description de ce qui se passe dans un petit village de l'Eure-et-Loire. Mais il y avait plein de registres qui notaient l'apparition de ces brouillards fétides avec l'odeur pestilentielle, qu'on appelle brouillard sec, vous voyez. Vous avez ici la date d'apparition des brouillards secs pendant le mois de juin 83. Là, vous avez des observations qui montrent la mortalité dans 2 paroisses. En haut, c'est la température. Non, c'est pas la mortalité, c'est la température moyenne. Donc, ici, en Angleterre. Alors, l'été, vous voyez que l'été 1783, le brouillard fétide a été beaucoup plus chaud que l'enregistrement habituel. Par contre, les 2 hivers qui ont suivi ont été extrêmement froids. Et là, c'est le pic de mortalité de 1783. Si vous regardez ce qui se passe, vous voyez que l'été 1783, là, il a fait premièrement très chaud, une espèce de canicule avec ses brouillards fétides. Eh bien, il y a une surmortalité très importante par rapport à la mortalité standard. Il y a beaucoup de, probablement de vieux, d'asthmatiques, des choses comme ça, qui ont eu une gêne respiratoire terrible et qui sont morts. On parle souvent du méfait des particules fines, c'était quelque chose à l'époque. Alors, on a pu modéliser la répartition de l'aérosol du Laki près de la surface pendant pas la fin du mois de juin 1783 avec ce qu'on sait des vents normaux à cette saison, et vous voyez que fin juin, les airs au sol du Laki avaient quand même envahi toute une bonne partie de l'hémisphère nord. L'hémisphère sud, en juin 83, était totalement épargné. Alors là, on a résumé des éruptions qui ont dû faire des dégâts, le Toba, qui a peut-être tué l'humanité, qui a failli tuer l'humanité, le Laki, qui a tué la moitié, le quart de la population islandaise. C'est ce que j'appelle des petits volcans, des gros volcans, des super volcans. Est-ce que vous n'avez pas rien de plus terrible en magasin? Eh bien, il y a ce qu'on pourrait appeler les trappes, qu'on pourrait appeler des hyper-volcans. Vous allez bien les aimer si vous aimez les catastrophes. Par contre, si vous êtes dinosaure, vous les aimerez beaucoup moins. Alors, les trappes sont des hyper-volcans, mais en général non explosifs. C'est des hyper-volcans, type coulée de lave, type Laki, des giga-Laki. Alors, voici la trappe des surfaces affectées par des coulées de lave géantes. En français, on parle de province magmatique géante, LIP, Large Igneous Province en anglais, plus jeune que 300 millions d'années. Toutes les taches jaunes sont des régions affectées par ces provinces magmatiques géantes. Caractéristique commune de toutes ces taches jaunes, c'est essentiellement du basalte. C'est un très très grand volume, mais émis pendant un temps très bref. Alors très bref, là c'est géologique. C'est disons de 500 000 à 2 millions d'années. Alors voilà justement le volume de lave émis en fonction du temps par 5 provinces géantes. Vous voyez que, par exemple, si vous prenez le Deccan, autour de 65 millions d'années, et ben pendant 1 à 2 millions d'années, il y a la majorité qui a été émise. Ça commençait avant, ça commençait vers 60 millions d'années, plutôt 70 millions d'années, et ça s'est terminé vers 60, mais avec un pic très important vers 65. Là, le temps va de droite à gauche sur cette graphique. Alors, qu'est-ce que c'est des trappes? Voici les 2 trappes les plus connues. Les trappes du Deccan, en Inde, c'est un empilement de coulées de lave. Chaque couche que vous voyez, c'est une coulée de lave. Alors, trappe, ça vient d'un mot suédois, trappa, qui signifie escalier. Alors, que vient faire les langues scandinaves pour définir ce genre de coulée de lave. Alors il y a plusieurs interprétations, moi celle qui me plaît, c'est qu'il y a des îles scandinaves, les Féroé, l'Islande, où il y a ce genre de truc-là. Et donc pour décrire cette morphologie assez fréquente dans l'Atlantique Nord, eh bien on a pris un mot suédois. Alors, deuxième trappe très connue aussi, c'est les trappes de Sibérie, dont vous avez ici des photos. Chaque couche est une coulée de lave. Les trappes de Sibérie, c'est des centaines de milliers de kilomètres carrés, une à trois fois la France, recouverts de centaines de coulées, ce qui fait une épaisseur totale de 1 à 4 km de basalte. 1 à 4 km de basalte sur une surface grande comme 3 fois la France, et émis en 1 à 2 millions d'années. Vous voyez l'énormité de la chose. Alors, le trappe le plus volumineux, l'éruption volcanique la plus volumineuse, mais elle est bien cachée, c'est les éruptions d'Otong-Java, parce qu'elles sont sous le Pacifique, là où j'ai mis du rouge. 20 à 50 millions de kilomètres cubes ont été émis pendant un temps relativement bref. Si ces 20 à 50 millions de kilomètres cubes étaient étalés sur la France, ça recouvrirait la France, avec ses 550 millions de kilomètres carrés, France métropolitaine, Corse non comprise, de 40 à 100 kilomètres de basalte en épaisseur. Imaginez. Et j'ai marqué pourvu que ça n'arrive pas demain. Alors, ces provinces magmatiques géantes sont alimentées par des essaims de dikes géants. Alors, une de ces provinces, c'est la province du Karoo, qui est relativement érodée. Donc on voit très bien les dikes, et chaque trait que vous avez de couleur sur cette carte, des traits bleus, des traits verts, très jaunes, très oranges, c'est un dike. Et je vous ai montré ici la photo que j'ai prise par là-bas, d'un dike extrêmement fin, puisque ce dike, qui est très long, vous voyez, il traverse toute la photo, ne fait que quelques centimètres d'épaisseur. La province magmatique de l'Atlantique centrale, qu'on appelle Camp Central Atlantic Magmatic Province, en anglais, c'est la plus étendue des provinces magmatiques sur Terre. Elle est éclatée maintenant sur quatre continents, l'Europe, tout petit peu, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Elle a émis en à peu près 3 millions de kilomètres cubes, et c'est de 7 à 10 millions de kilomètres carrés qui ont été affectés. Alors ça fait des coulées, des cils, des dikes, des intrusions limitées, tout ça, vers 200 millions d'années, en quelques millions d'années. Alors, je vous montre que c'est la seule province magmatique géante qui affleure en France, alors surtout en Guyane, il y a énormément de dikes en Guyane, et un tout petit peu dans les Pyrénées, et en Bretagne, ici. Là, vous avez un morceau de la côte bretonne. Et il se trouve que le basalte est moins résistant que la roche environnante. Et l'érosion de la mer, vous voyez un espèce de creux, là devant, au milieu de la photo, qui fait une vingtaine de mètres de large. C'est le filon de basalte qui se poursuit quasiment jusqu'à Douarnenez. Là, on n'est pas très loin, au nord de la pointe Saint-Mathieu. Et ce grand filon de basalte, qui a 200 millions d'années, est une des manifestations les plus au nord du camp. Et on est chez nous, en Bretagne. Alors, on peut regarder les principales provinces magmatiques géantes, et Sandyke, Trappe et tout ça, et plateaux océaniques, qu'on a depuis 300 millions d'années sur Terre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une douzaine. L'épaisseur du trait indique plus ou moins la durée de l'émission. Il y a donc une douzaine de ces grandes émissions massives depuis 300 millions d'années. Mettons 10 pour simplifier, depuis 300 millions d'années, ça fait une toutes les 30 millions d'années a priori. Et la dernière, il y a une quinzaine de millions d'années, donc statistiquement on est tranquille. Mais vous voyez que des fois il y en a deux qui se suivent très très près, puis des fois on a, pas comme à la fin du Jurassique, de très grands moments où il n'y en a pas. Alors, ça n'a a priori rien à voir, mais on sait grâce aux fossiles, et on le sait depuis longtemps, que des êtres vivants anciens ont disparu sur Terre. Tout le monde connaît ici les mammouths, parce qu'on a des grottes préhistoriques en Ardèche. Vous pouvez vous promener, vous trouverez des ammonites, si vous allez par exemple sous le village de Mirabel dont j'ai parlé. Vous pouvez trouver des fossiles, de plantes fossiles, ici c'est des animalariens, on peut trouver ça à Jaujac, vraiment pas loin. Et puis on peut trouver, pas forcément dans l'Ardèche, des dinosaures, des trilobites, des cicadales fossiles, comme vous avez ici à droite, en bas. Bref, il y a plein d'animaux et de végétaux qui vivaient et qui fleurissaient dans des temps anciens, comme les trilobites, pas si anciens que ça, les mammouths, et qui ont aujourd'hui disparu. Ça, c'est les fossiles, voire les gravures préhistoriques qui nous l'indiquent. Alors, est-ce que, donc, s'il y a des animaux qui ont disparu, c'est qu'il y a des extinctions. Alors, des extinctions, on a toujours, avec l'unité choisie qui doit être à peu près le pourcentage d'extinction du nombre de genres par tranche de 10 millions d'années, il y a à peu près, avec cette unité-là, un taux d'extinction normal d'à peu près 10%. 10% des genres qui s'éteignent en moyenne tous les 10 millions d'années si l'unité est la bonne. Et vous voyez que de temps en temps, on est très très, d'après le registre fossile, très très largement au-dessus des 10%. C'est ce qu'on appelle des crises. Alors tout le monde parle des 5 grandes crises, des fois on rajoute la 6e, il y en a d'autres. Là je prends que les grandes crises depuis 300 millions d'années, c'est-à-dire depuis le Carbonifère, il y en a 3. Une à la fin du Permien, une à la fin du Trias, et une à la fin du Crétacé, qui ont tué respectivement, on va dire 60, 40 et 40% des espèces à ce moment-là. Les espèces, c'est tous les, aussi bien le plancton, les algues, les mammouths, les éléphants, tout ça. Alors, on peut se demander, ces grandes crises, si on prend les 3 les plus récentes, est-ce qu'elles ne pourraient pas, d'une façon ou d'une autre, être liées au volcanisme? Alors, je superpose les 2 diagrammes. Le diagramme qui montrait les grandes trappes, les grandes provinces magmatiques géantes, il y en avait 12 si je me rappelle bien, et les grandes crises que je viens de vous montrer sur la diapositive précédente. En jaune, les grandes crises, et en vert, les grandes crises qui ont lieu pendant une grande extinction. Et vous voyez que les grandes extinctions, ça correspond les 3 fois, puisqu'il y a 3 grandes extinctions, à des éruptions volcaniques géantes, à la fin du Permien, à la fin du Trias, à la fin du Crétacé. Par contre, il y a des éruptions volcaniques géantes, la plus grande en particulier au Tonga, qui ne font absolument pas de crise. Donc il y a une relation, quand il y a crise, il y a volcanisme, mais des fois il y a volcanisme sans crise. On peut dire que le volcanisme doit avoir une relation, mais ça ne peut pas être la seule cause, parce que sinon il y aurait beaucoup plus d'extinctions que ça. Alors on peut se demander pourquoi une crise volcanique majeure, qui émet des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres cubes de lave, perturberait-elle la biodiversité? Alors on peut voir un certain nombre de causes, refroidissement et obscurité à cause des poussières. Alors ça, ça va durer, mettons, imaginons une éruption instantanée, j'imaginais, les poussières, les aérosols et tout ça, ça va durer 1 an, 2 ans. En bas, vous avez l'échelle du temps, attention, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire 1 c'est 1 an, mais 0,1 c'est 1/10 d'année, 1 mois pour simplifier, et vous voyez qu'après on passe à 10, 100, 1000, 10 000, 1 million, etc. Donc, l'échelle est ce qu'on appelle logarithmique, c'est pas linéaire du tout, c'est pas parce que le trait est 2 fois plus long que c'est 2 fois plus long. Alors vous voyez que dans ce diagramme-là, le refroidissement dû aux poussières et tout ça, ça dure à peu près 1 an. Le refroidissement à cause des aérosols, des sulfates émis par les éruptions volcaniques, ça va durer 10 années. Une éruption volcanique, ça se traduit en général par la sortie de beaucoup, beaucoup de CO2, et beaucoup, beaucoup de CO2, ça va faire renforcer l'effet de serre, ça va faire réchauffer. Mais alors ce CO2 va progressivement être absorbé par l'océan, la végétation, et on va dire qu'entre 10 000 et 100 000 ans, l'excès de CO2 va disparaître après la fin de l'éruption. Donc les 2 premières causes, ça fait ce qu'on appelle un hiver nucléaire, parce qu'il y aurait la même chose s'il y avait une guerre nucléaire généralisée, un coup de froid, et puis le CO2, ça fait un coup de chaud, qui dure beaucoup plus longtemps. Mais une fois que le basalte est sorti, je ne vais pas vous raconter, mais il est altéré et tout ça, et le basalte qui est émis va servir à pomper le CO2 par des effets chimiques complexes. Alors c'est lent, mais inexorable. Ça va durer, ce pompage du CO2 qui va entraîner un refroidissement global sur peut-être 1 million, 10 millions d'années. Alors que l'effet du CO2, c'est 10 000 à 100 000 ans, et le refroidissement à cause des poussières des aérosols, c'est 1 à 10 ans. Vous voyez les différences d'échelle de temps. Le résultat, si on regarde la température, rien que ces 5 effets-là, c'est d'abord un coup de froid, pendant 1 à 10 ans, puis un coup de chaud, 10 à 10 000 ans, puis un coup de froid, 10 000 à 10 millions. Il y a d'autres causes qui peuvent s'ajouter, les pluies acides, à cause du soufre, c'est très très mauvais pour la végétation, pendant 10 ans, la végétation va morfler. Il peut y avoir des conséquences indirectes sur la circulation océanique et tout ça. Donc on voit très bien comment une éruption volcanique majeure fait des perturbations climatiques majeures qui peuvent, elles aussi, perturber la biosphère et provoquer, directement ou indirectement, des extinctions. Alors, si on regarde les grandes extinctions, la 12aine de crises volcaniques majeures et les 3 extinctions, vous voyez que, donc, en verticale, en ordonnée, c'est le pourcentage diminution des genres. La normale, c'est vers 10%. Tout ce qui est vert et c'est bleu, on est dans le bruit de fond. Il n'y a pas d'extinction particulière. Mais vous avez 4 extinctions qui sont en rouge. Parce que de 30 à 60% des genres ont disparu. Et ces quatre extinctions, alors il y en a deux qui sont contemporaines, c'est assez qui sont mélangées, là, c'est assez difficile de les distinguer, correspondent à des provinces magmatiques géantes. Alors, il n'y a pas de relation. Les plus grosses extinctions, qui sont les plus gros volumes de lave, qui sont bleus, n'ont pas fait d'extinction. Les Caraïbes, Kerguelen, autant que Java, n'ont pas fait d'extinction. Et si on prend les petites, on va dire moins de 4 millions de kilomètres cubes de lave, les vertes n'ont pas fait d'extinction, les rouges en ont fait. Comment ça se fait que parfois il y a extinction et parfois pas extinction? Alors si on regarde, les éruptions bleues sont sous-marines. Elles sont très grosses, mais sous-marines. Et il semblerait que les extinctions bleues sous-marines n'aient pas d'effet notable ni sur le climat, ni sur les extinctions. Même pour le géant du genre, autant que Java, 50 millions de kilomètres. Ce que j'ai trouvé en vert, c'est des éruptions géantes, hein, ça fait quand même jusqu'à 2-3 millions de kilomètres cubes, mais a priori, ça n'a pas fait d'extinction. Je vais dire que c'est trop petit pour avoir un effet notable. Mais comment ça se fait que les éruptions rouges, qui sont aussi petites en volume, ont un effet notable, puisqu'il y a 30, 40, 55% du nombre d'espèces qui a disparu? Alors, le Central Atlantic Province, Camp, c'est pas le plus volumineux, c'est autour de Java, mais si celui qui occupe la plus grande surface. Rappelez-vous, maintenant, depuis l'ouverture de l'Atlantique, il est sur quatre continents. Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique et même un petit peu Europe. C'est pas le plus volumineux, mais c'est la plus grande surface. Et réparti sur une aussi grande surface, eh bien, ça peut avoir des effets climatiques et biologiques beaucoup plus importants que quelque chose qui a mis autant de lave, le Karoo, mais en plein milieu d'un continent, sur une surface assez petite. Donc, hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, c'est pas le plus volumineux, mais la plus grande surface. Le Deccan. Il se trouve que, pendant que le volcanisme marchait, il avait commencé peut-être depuis 500 000 ans, il avait encore duré 500 000 ans, il y a une énorme météorite qui est tombée en plein milieu des éruptions. Les éruptions avaient dû considérablement perturber le climat, peut-être pas assez pour faire une extinction, mais ça devait être pas folichon, la qualité de la biosphère. La grosse météorite arrive, elle est tombée au Mexique. Ça a été le coup de grâce qui a entraîné cette extinction. Et puis ces deux-là, alors, on peut les regrouper parce qu'ils sont quasiment simultanés, quelques millions d'années près. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Bon, ils sont simultanés, mais enfin bon, ils sont pas énormes. Eh bien, il faut se rappeler que, comme chacun sait, il n'y a pas que la taille qui compte. C'est important, la taille. Mais une fois qu'on est rentré, il y a ce qu'on fait à l'intérieur. Et ce qu'on fait à l'intérieur, c'est le magma qui arrive d'en bas, qui traverse la croûte terrestre, et la quantité de magma qui traverse, mais également son interaction possible avec les roches qu'il pénètre et ou recouvre. Là, en bas, vous avez un schéma de magma qui arrive, alors qu'il peut faire des dikes, comme on a vu, passe directement, qui peut s'étaler entre les couches, s'il y a des couches à cet endroit-là, ça fait ce qu'on appelle des cils. Et évidemment que les roches traversées et entrelardées par des dikes et des cils, ça peut les perturber. Et si vous prenez celui qui était en haut, tout en haut, le trap de Sibérie, le volcanisme est rentré dans un bassin sédimentaire, un peu comme le bassin parisien, un peu plus grand, et les filons de lave ont tout traversé. Ça a recouvert toute la province de basalte, c'est les couches vertes en haut, mais il y a plein de basalte qui s'est interstratifié, entrelardé dans les couches sous-jacentes. Or, toutes ces couches sous-jacentes ont dû être cuites, chauffées par les basaltes du dessus, mais également par le basalte qui s'est bien entrelardé dedans, et c'est là que ça a pu faire des choses. Quand vous avez simplement émission de basalte, eh bien, le basalte, ça émet du CO2, ça émet du soufre, on l'a vu, mais pas beaucoup en pourcentage, c'est pas très grave. Mais si ce basalte chauffe très fort et transforme des calcaires et des dolomies, eh bien, il faut savoir que les calcaires et dolomies, si on les chauffe très fort, ça émet en poids jusqu'à, on va dire, 45% de son poids. Prenez une tonne de calcaire, vous la chauffez très fort, ça émet 450 kg de CO2. Alors qu'une tonne de basalte va émettre 1 kg de CO2. Si votre basalte cuit des évaporites, ça va émettre, suivant la nature des évaporites, qui sont du gypse ou du sel, du chlore ou du soufre. Si vous détruisez du gypse, 47% en poids de votre gypse va émettre du CO2. Et si vous cuisez du chlore, du sel, ça va émettre du chlore. Et si vos coulées de lave, vos cils, vos dikes cuisent du charbon, des hydrocarbures, ça va émettre du CO2, du méthane et du soufre. Et donc si votre basalte, tout seul, il ne fait pas grand chose, ça peut déjà faire des dégâts, s'il traverse des calcaires, du gypse, du sel, du charbon, ça va émettre plein de soufre, de chlore, de méthane, de CO2, composés très perturbateurs pour le climat, voire même pour la biosphère. Or, il se trouve que les terrains des Michan en Chine et de Sibérie, qui ont été de façon presque simultanée traversés et recouverts par les basaltes, contiennent beaucoup de carbonate pour ceux des Michan. Quant à ceux de Sibérie, contiennent des charbons, des calcaires, des dolomites, des évaporites. Et tout ça, ça a émis potentiellement énormément de gaz à effet de serre, de gaz toxiques dans l'atmosphère. Donc, la traversée de ces terrains sédimentaires par les basaltes des Michan et de Sibérie ont fait émettre un cocktail potentiellement mortel qui a sans doute participé à la grande crise de la biosphère. Et la crise la plus haute, là, où quasiment 60% des espèces sont mortes, c'est la plus grande crise de la biosphère depuis longtemps. Donc, vous voyez que le volcanisme ne suffit pas, mais ça fait des choses quand la surface affectée est extrêmement grande, le cas de la province centrale atlantique. Ça fait des choses quand une météorite arrive dedans. Une météorite toute seule aurait peut-être rien fait. Des trappes comme le Deccan auraient peut-être rien fait, mais les deux à la fois, c'était dramatique. Alors il se trouve que ces trappes-là, les autres Karoo éthiopiens, sont arrivés sur des terrains qui contenaient pas de gypse, pas de calcaire et tout ça, mais il se trouve que les trappes des Michan et de Sibérie ont affecté des terrains sédimentaires avec calcaire, gypse, charbon, etc. Et là, ça fait le cocktail mortel. Tout ça. Vous voyez que pour qu'il y ait extinction massive, il faut pas une circonstance, mais un faisceau de circonstances qui font que certains, ça fait des choses. Parfois ça le fait, parfois ça ne le fait pas. Alors tout ça n'est pas admis par tout le monde, mais disons que la communauté des scientifiques qui travaille sur ces extinctions commence bien fortement à réfléchir, en particulier sur l'influence des terrains traversés et recouverts pour la Sibérie et la Chine. Alors que conclure de tout ça, parce que le temps va être fini, 4 milliards d'années d'évolution, et la vie terrestre a produit au bout de ces 4 milliards d'années d'évolution des milliards de formes, je vous en ai mis quelques-unes ici, une douzaine de formes qui vont des moisissures aux éléphants, en passant par les bactéries et les méduses, les papillons et les humains, donc un certain nombre de formes biologiques, il n'y a pas les forêts, les poissons, les acariens, les algues, et tout ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette immense biodiversité? Alors il y a les causes intrinsèques à la vie, à son fonctionnement, je ne parlerai pas, je ne suis pas biologiste, hein, c'est ça. Mais il y a également des causes extrinsèques à son fonctionnement de la vie, donc liées à l'environnement terrestre et extraterrestre, avec entre autres les effets des impacts et des épisodes volcaniques qui font des extinctions, et chaque extinction est en général suivie par un buissonnement des survivants. On tue la moitié de la population, la moitié des espèces, les survivants ont plein de niches écologiques libres, ils se développent, et à chaque fois, à coup de crise et de redéveloppement, on aboutit à la biodiversité actuelle. Alors, en plus d'influencer l'évolution de la vie, à coup de crise et tout ça, le volcanisme a peut-être participé à son origine. Je vous montre ici des fumeurs noires. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en parlerai peut-être l'année prochaine si le thème de l'astronomade est, par exemple, la vie et son origine. Alors, pensez à tout ça en vous promenant sur les sentiers ardéchois. Et c'est ce que je viens de faire cet après-midi, là, donc juste avant de venir ici. J'ai eu le temps de me promener, de faire cette photo vert purzé et vite de faire rajouter dans mon PowerPoint pour vous montrer que quand vous vous promenez dans les sentiers ardéchois, bon c'est beau, l'eau est fraîche, les paysages sont belles, le fromage de chèvre est bon, mais pensez au volcanisme. L'Ardèche est un département où on voit bien tout ça, en disant que le volcanisme c'est pas que de la lave, c'est aussi peut-être ce qui a conditionné notre destin, ça a failli peut-être tuer l'humanité il y a 73 000 ans, mais en tuant la majorité des dinosaures, ça a permis aux mammifères de se développer, donc à l'homme qui est un mammifère de se développer. Pensez à tout ça en vous promenant en Ardèche. Je vous remercie de votre attention.